Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nouvelle édition du JDA, l'actualité commentée et analysée par les auditeurs d'Africa Radio. Aujourd'hui, nous lançons le débat sur le Bénin. Le dialogue politique national doit s'ouvrir demain. C'est une annonce du président Patrice Talon qui a annoncé cette concertation pour tenter de trouver une issue à la crise politique qui émaille le pays depuis plusieurs mois et notamment depuis les élections législatives. Alors que pensez-vous de ce dialogue? Peut-il aboutir en l'absence d'une partie de l'opposition? Et que pensez-vous de l'annonce d'un contre-dialogue par cette même opposition? Pour participer, appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires sur WhatsApp. Le numéro, c'est 33 7 66 19 77 69. Et bien sûr, toujours les réseaux sociaux, notre page Facebook, facebook.com/journal des auditeurs. Je lirai quelques-uns de vos messages pour enrichir le débat. Et nous en parlerons de ce dialogue national dans quelques instants avec Joël Ataï-Kedegbe. Il est président de l'ONG Nouvelle Éthique. Avant cela, comme de tradition, nous ouvrons cette émission avec le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour Stéphanie. Bonjour auditeurs d'Africa Radio. Bonjour l'Afrique. Je voudrais parler un peu de ce qui s'est passé en France sur la mort, l'assassinat de quatre policiers tués par leurs collègues à la préfecture de police de Paris et les blessés que nous connaissons tous. Je voudrais dire un truc, c'est-à-dire les politiques françaises, je ne sais pas qu'est-ce que, enfin, l'opposition française, j'allais dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pense. Elle pense qu'en demandant la démission du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, c'est résoudre les problèmes. Tout le temps, quand il y a une situation pareille, on demande la démission du ministre de l'Intérieur. Et c'est comme si il partait, il n'y aura plus de terrorisme.
Bonjour, Madame Hartmann. Bonjour, les amis de Judéa, le peuple africain, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Nous avons martelé l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo pour faire partie, M. Kabila, de la République démocratique du Congo. Mais nous savons qu'il n'est pas là, mais il a le pouvoir sur le Parlement, sur le Sénat et sur toutes les institutions. Il y a seulement la tête du pays, M. Félix Tshisekedi. Nous, le peuple congolais, le pays nous appartient. Ne baissons pas les bras, ne parlez pas, Kabila est là, mais Kabila n'est plus là, il est parti comme nous avons dit, Kabila que vous voyez, vous le verrez plus. Mais c'est maintenant à nous, le peuple congolais, de prendre conscience, de chercher à être unis ensemble, comme la constitution de la République démocratique nous dit, le Congo ne sera jamais divisé, nous sommes unis, un père et une mère.
Bonjour. J'ai longtemps soutenu M. Ali Bongo sur cette radio contre certains militants haineux gabonais. Mais ces derniers temps, j'ai vu des images de M. Ali Bongo. Et il y a deux sentiments qui m'animent. Le premier sentiment, c'est que quand je vois Ali Bongo, j'ai vraiment pitié. Et voyant son passé, j'ai de la compassion pour lui. Et le deuxième sentiment qui m'anime, c'est un peu du dégoût, M. Ali Bongo. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de diriger le Gabon. Vous n'êtes pas en possession de vos facultés mentales et physiques. M. Ali Bongo, rendez votre démission. Il est sûr et certain, au moins qu'il y ait un article dans la constitution gabonaise qui stipule que lorsque le président est en incapacité, il peut se faire remplacer par quelqu'un d'autre. Voilà, donc M. Ali Bongo, il faut mettre ce texte en application. M. Ali Bongo, rendez votre démission, s'il vous plaît. Idriss, bonne journée.
Oui, bonjour Africa Radio, bonjour Stéphanie Hartmann, c'est toujours M. Didier. Je voulais parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Vous voyez, j'ai vu une annonce du l'avocat du président Gbagbo qui demande sa libération totale. Là, je suis d'accord. Mais où il y a un bémol. Il demande sa libération et il veut qu'il soit candidat aux élections présidentielles de 2020. Ben, j'ai dit, oh, les trois personnalités, le président Gbagbo, le président Bédié, le président Ouattara, je les en prie, qu'ils nous laissent tranquilles. C'est bon. Chacun a déjà gouverné, on a vu ce qu'il pouvait faire, c'est bon. Ça suffit. Qu'ils laissent d'autres générations gouverner, c'est pas une chaîne alimentaire quand même. Le président Gbagbo a déjà gouverné. On a vu ce qu'il a pu faire. Le président Bédié a gouverné. On a vu ce qu'il a fait. Le président Ouattara est en train de gouverner. On a vu ce qu'il est en train de faire. C'est bon. Ils sont âgés. C'est bon. C'est pas le seul lieu où on peut servir son pays. Être président. Franchement, en Afrique, je ne comprends absolument pas pourquoi est-ce que à chaque fois c'est comme ça. Donc si tu n'es pas président, tu n'es pas un homme, quoi.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, que faut-il attendre du dialogue qui s'ouvre demain au Bénin pour lancer le débat. Et avant de vous écouter, chers auditeurs, nous accueillons Joël Attaï-Guédégbé, président de l'ONG Nouvelle Éthique, par téléphone avec nous depuis Cotonou. Joël Attaï-Guédégbé, bonjour.
Bonjour Madame Hartmann, bonjour vos auditeurs.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on le disait depuis plusieurs mois, le climat politique au Bénin est tendu, en cause l'exclusion de plusieurs partis politiques des élections législatives. Un premier dialogue, cher Joël, avait eu lieu pour tenter de trouver des solutions, notamment aux questions relatives à la certification des partis politiques. En quoi ce deuxième dialogue est-il différent ?
Bon, les mots n'ont que des usages. Disons qu'il s'agit manifestement d'une autre concertation et avec des partis qui ont des caractéristiques relativement communes, dans la mesure où ceux qui sont conviés à la présente réunion autour du chef de l'État, sinon par le gouvernement, ont satisfait aux conditions posées par le ministère de l'Intérieur. Pendant que, d'ailleurs, l'un d'entre eux, sinon deux d'entre eux, refusent pour l'instant d'y participer. Et que surtout, quelques autres n'ont toujours pas pu satisfaire aux conditions et sont tenus formellement en dehors de ce qui était fait avant, en dehors des autres invitations. Donc ça, de ce côté, les critères sont de plus en plus discriminants et marquent une nette césure par rapport aux approches précédentes. Est-ce que ce sera définitif ? Est-ce que ce ne sera qu'une étape ? On observe également que en face, sinon de l'autre côté, ceux qui refusent de se soumettre ou de satisfaire aux conditions posées par le ministère de l'Intérieur, voire par l'actuelle charte des partis, ont tenté ou tentent de s'organiser également, de se concerter, parce que ce n'est pas forcément non plus la grande sérénité, la grande cohésion du côté de l'opposition. Donc il n'est pas inutile que de part et d'autre, les concertations soient mises pour arrêter des plateformes plus cohérentes et plus faciles à discuter ou en tout cas qui servent de base. Et à la discussion, parce qu'en réalité, nul ne connaît sérieusement l'agenda, à moins qu'il s'agisse de travailler sur les lois qui ont fait problème, notamment la charte des partis et le code électoral dans certaines de leurs dispositions et surtout dans le cadre de l'application des dispositions. Est-ce que c'est vers ça qu'on va ? Mais encore faudrait-il que les uns les autres se rencontrent définitivement, se rencontrent finalement. Et on y est pas pour l'instant. L'Assemblée nationale, de son côté, telle qu'elle a été élue avec ses déficits de légitimité, et on ne la voit pas s'organiser non plus autrement, malgré la bonne volonté de son président, pour tenter également de créer les cadres de concertation idoine en vue de travailler à la correction des lois, en vue même de réfléchir au-delà de ça, à ce qu'on pourrait faire par rapport à la Constitution pour sortir du...
À vous entendre...
Voilà, de la situation actuelle.
Cherche Joël Ataïguelegbé en impression... qu'on va vers le statu quo. Alors justement, hein, face aux demandes hein, d'élargissement et davantage d'inclusivité hein, du dialogue, le ministre hein, de la communication, Alain Orunla, a déclaré, hein, c'est un dialogue. Voilà, il a déclaré, c'est un dialogue politique. Hein, vous le disiez tout à l'heure, à l'instant, hein, on ne sait pas grand-chose sur le contenu. Alain Orunla dit que c'est un dialogue politique pour résoudre des problèmes spécifiques et purement politique, ce dialogue ne postule pas qu'on débatte de ces questions devant la nation et que tout le monde s'y invite. Et il a ajouté, la politique et les réajustements politiques ne sont pas l'affaire de la société civile et du clergé. Que pensez-vous de cette position du ministre de la Communication ?
Oh, elle m'étonne pas, elle me fait beaucoup plus sourire. On aura l'occasion de deviser largement de ça. C'est de bonne guerre et quand on est dans ce genre de posture, oui, on peut se permettre... ce type de formule à la limite de l'arrogance, mais on en prend acte et on attend de pouvoir en parler les yeux dans les yeux le moment venu. Et on ne peut pas considérer catégoriquement que telle partie de la société aurait le droit d'opiner, de réfléchir sur la vie politique et telle autre pas. En démocratie, bien sûr, les rôles sont partagés. C'est les partis qui compétissent hein, pour la conquête du pouvoir. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais la participation doit pouvoir avoir un sens et une démocratie vidée de cette possibilité devient complètement autre chose. En tout cas, j'espère bien que ce n'est pas ça le fond de la pensée du ministre, mais c'est à bon droit, je peux faire droit à la volonté des acteurs politiques de se retrouver, même à huis clos, c'est leur affaire, c'est leur droit, mais ce n'est pas du tout ce qu'on appelle un dialogue politique, c'est encore moins un dialogue national. On est peut-être d'accord sur les nuances qu'il faut mettre. C'est même pas une négociation, comme certains tentent de le faire en mettant sur la table des conditionnalités qui n'en finissent pas. Quand on parle de dialogue, on parle de l'effort pour s'écouter, pour poser les problèmes, les identifier et éventuellement travailler ensemble à la définition d'approches de solutions pour faire évoluer les choses. Et si nous faisions l'effort, ou si on faisait l'effort d'admettre qu'on est quand même dans une situation de blocage, bon, bien en prenne et ceux qui ont choisi l'enfermement pour en sortir. L'essentiel est que le pays ne régresse pas et qu'on trouve les moyens de sortir de cette espèce de défiance qui engage tout le monde quand même et qui fait mal au pays, à son image, et voire même à son économie, à sa survie.
Bien sûr. J'ai une dernière question, Joël Ataïguelegbé. Vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure. Hein. L'opposition, hein, principalement la Renaissance du Bénin, du président Soglo et l'USL hein, de Sébastien Djavan, ont annoncé un contre-dialogue pour faire le bilan. Que pensez-vous de la stratégie de l'opposition depuis plusieurs mois ? Une opposition qui semble, vous l'avez dit, divisée, mais surtout discrète, désunie. Comment expliquez-vous cela ?
Oh, c'est un peu le reflet de la fragmentation de la vie politique au Bénin. La charte politique tentait d'y apporter une réponse un peu par la loi, mais quand elle ne peut pas adresser les problèmes spécifiques qui existent et qui sont toujours là, la loi passe aussi à côté et ne sert pas d'instrument de transformation sociale. Et donc l'opposition également a sérieusement à balayer devant sa porte et pour ou à tout le moins à communiquer à ses militants et voir au-delà à ce qu'elle appelle et pour la médiation ou ce qu'elle appelle en soutien, l'opposition a envoyé un message de crédibilité, de cohérence au niveau de ses messages, de son discours. Et donc les anathèmes qu'il y a au niveau de l'opposition ne plaident pas non plus en sa faveur. Les anciens présidents Soglo et Yahi Boni, qui auraient pu être dans la posture de médiateur, sont fatalement des partisans, parfois même des acteurs ou des facteurs de la crise. Et je crains qu'ils ne finissent comme des généraux sans troupes. Donc le défi également est très fort et très élevé à ce niveau. L'idéal pour le pays est que les forces s'organisent, qu'on aille vers une polarisation acceptable, qui clarifie les questions en débat, pose de manière explicite, intelligible les questions pour les rendre solutionnables. Et donc, il n'est pas à déplorer que l'opposition cherche à se refaire, à se montrer désirable aussi par la population, par l'opinion publique. N'oublions pas que des élections sont en vue d'ici le mois de mai, si elles sont maintenues comme telles. L'idéal, de toute façon, c'est que les uns et les autres commencent à travailler plus sérieusement à des plateformes qui permettent d'ébaucher une sortie de crise. Un pays comme le Bénin ne peut pas se permettre de passer des mois, des années à ne discutailler que de politique politicienne. Je ne vois pas, j'entends pas les propositions des uns et des autres par rapport à un nombre d'aspects de la vie, en tout cas qui sont déterminants pour la vie publique.
On pense notamment, Joël Ataïgédégbé, à la fermeture.
L'électeur.
À la fermeture de la frontière avec le Nigeria, qui pour l'instant.
Oui, j'y pense, notamment. Voilà des questions qui s'imposent à tout le monde. Et nul ne devrait se réjouir plus longtemps de cette situation-là, même si, disons, ça met en difficulté le gouvernement. L'opposition aurait tort de revendiquer à son actif cette fermeture des frontières, parce que c'est une fermeture qui met à mal les producteurs béninois, et en cas ceux du cru, dont certains produits ne sont plus admis au Nigeria. Le commerce est perturbé, l'intégration n'a plus de sens, les engagements sous-régionaux du Nigeria, les engagements internationaux du Nigeria en matière de commerce international sont bafoués, sont foulés du pied. Et donc, par rapport à ça, la nation aussi doit pouvoir se retrouver pour imaginer la riposte, sinon redéfinir les conditions d'organisation de notre économie, de notre commerce sous-régional et surtout de l'intégration. Les populations, qu'est-ce qu'on leur propose finalement? En quoi est-ce qu'elles peuvent croire? Qu'est-ce qu'elles peuvent espérer davantage du politique? Si le politique n'est pas là pour aider à construire des réponses, des solutions, croyez-moi, il finit par donner l'impression qu'il n'est là que pour des intérêts égoïstes, pour des partages de postes et de gâteaux.
On comprend.
Ce qui risque de discréditer la démocratie.
On comprend.
La rendre moins désirable.
On comprend bien à vous entendre, Joël Ataïgédégbé, que finalement, la crise au Bénin est une crise beaucoup plus profonde. Je vous remercie beaucoup, Joël Ataïgédégbé, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Nouvelle Éthique. Je vous souhaite une excellente journée à Cotonou. Merci beaucoup, Joël Ataïgédégbé. La parole aux auditeurs désormais, 33 1 55 07 58 00. Et on commence avec Vekam, bonjour.
Bonjour Madame Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs des auditeurs de l'Afrique.
Bonjour à vous Vekam, bienvenue. Vous nous écoutez du côté de Lubumbashi, je crois, c'est bien ça, non? Ah non. Vous êtes où?
Oui, je vous en prie. C'est le Lubumbashi, nous sommes en RDC, oui.
Kisangani plutôt, je crois, non?
Je suis à Lubumbashi,
C'est très clair. Alors Vekam, que pensez-vous de ce dialogue?
Bon, en fait, comme l'invité venait de l'expliquer, mais en fait, nous nous trouvons en mal le départ, parce que ce dialogue a été...
Ah. On a perdu Vekam, on essaye, c'est pas évident, beaucoup s'inscrivent. On a un vrai problème avec les lignes de téléphone. Bon, merci Vekam, je sais pas si vous nous entendez, peut-être que Gertrude va essayer de vous rappeler. Un petit message de William en attendant sur WhatsApp, dit cette concertation ou dialogue, peu importe comment on peut l'appeler, c'est de la poudre aux yeux. Patrice Talon a eu ce qu'il voulait, et là il veut se rattraper en cherchant à acheter des consciences. Pourquoi le parti de Sébastien Djavan n'est pas présent à cette invitation? Il ne va changer dans tous les cas, car le mal a été déjà fait de la part du pouvoir, comme contre l'opposition. Et le peuple, nous dit William Abdel de Montréal. Bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie, comment allez-vous?
Ça va bien, et vous-même Abdel?
Pas si mal.
Bon, tant mieux. Alors, quel regard portez-vous sur ce dialogue qui s'ouvre demain? On le disait, le contenu est un peu mystérieux, le contenu de ce dialogue. Savez-vous de quel... Que pensez-vous des quel sujet devrait être abordé durant ce dialogue?
Oui, le problème est qu'on est conscient, tout le monde partage qu'il y a mal d'hommes dans le pays. Et quand il y a mal d'hommes, c'est que le pays a un besoin qui appelle tout un chacun de nous. Et pour peu qu'un gouvernement en place offre un tableau, une table de dialogue, qu'elle soit politique ou autre, je crois qu'il ne faut pas laisser l'occasion s'échapper. Et il faut, comme on dit dans notre langue, on ne refuse pas l'appel, mais on peut refuser le contenu ou améliorer le contenu. Je crois que dans ce sens-là, il faut que chacun y mette la bonne foi et participe à ça là, pour apporter des changements, pour alléger un peu le climat politique dans les pays. Parce que c'est ce qui est vraiment le problème en ce moment. Et donc, il ne faut pas qu'on aille déjà avec des appréhensions que ça ne va rien donner, ça ne va rien donner. Mais quand on sait que ce que nous avons à gagner est beaucoup plus fort que ce qui nous divise, il faut que les gens participent de bonne foi et sortir le pays au lieu de se réjouir des malheurs éventuellement du gouvernement qui, quand le gouvernement va échouer, c'est le pays qui recule. Personne ne gagne dans ça. Donc, les acteurs politiques, oui.
Non, mais j'allais vous demander en quoi ce dialogue sera différent du premier et qu'attendez-vous de l'issue de ce dialogue ?
Il n'y avait même pas encore eu du premier. Il y avait même entendu que les gens n'ont pas vous saisi. Mais aujourd'hui, parce que c'était pour les élections législatives, en ce temps-là, on a dit aux gens conformez-vous à certaines lois. D'autres pensent qu'il faut faire bras de fer. Mais ça ne sert à rien. On ne va pas faire bras de fer ou faire bras de fer. On va essayer d'accommoder ce qui est accommodable et puis on va s'asseoir pour discuter pour le pays. C'est pour le pays qu'on veut discuter et non pour des intérêts particuliers. Si c'est vu comme ça, il faut que les gens s'y mettent dedans et s'y impliquent vraiment convenablement. C'est comme ça que le pays va gagner. C'est sûr qu'il y a toujours des divergences, mais dans tous les pays, il y a des divergences politiques. En plus, si on se compare avec d'autres, nous sommes encore loin de nous trouver vraiment comme des chiens de faïence quand on se regarde en face, comme si on va tout faire pour gâter pour que le pays se trouve à terre. Ça ne profite à personne.
Donc, il faut s'unir tout hein, pour le bien-être de la nation, si j'ai bien compris, mon cher Abdel. Merci beaucoup. Bonne journée du côté de Montréal. Hein. Abdel qui dit voilà, il ne faut pas refuser la main tendue et il ne faut pas préjuger de l'issue de ce dialogue. On va direction Dakar retrouver Abdourahmane. Abdourahmane, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Abdourahmane. Vous pouvez enlever votre kit-main libre, s'il vous plaît ?
D'accord, vous m'entendez très bien.
Beaucoup mieux. Bienvenue, Abdourahmane. Alors justement, je disais, il ne faut pas préjuger de l'issue de ce dialogue. Vous, quand vous avez envoyé un petit message, vous avez dit, bon, c'est un peu, le président Talon se moque un peu du peuple béninois, vous avez dit. Hein. Il a refusé le dialogue avant, il appelle maintenant, c'est... vous avez dit, je ne vois pas ce dialogue aboutir.
Oui, et pourquoi je demandais pourquoi ce dialogue maintenant, parce que nous tous nous sommes témoins depuis le conseil lui a appelé au dialogue. Et pourquoi il a refusé de préparer la route à l'opposition et faire cavalier seul. Et maintenant, après les élections, il décide d'organiser le dialogue. Et pourquoi ce dialogue c'est une façon de bloquer le peuple de l'Ima. Et je remercie aussi l'opposition d'avoir refusé cette demande. Car pour moi, il n'est pas possible d'accepter ce dialogue pour le moment. Il va falloir que le président Talon accepte de renoncer et pour moi, réorganiser l'élection, même si ça allait donner du coup. Mais pourquoi pas? Parce qu'il faut avoir des institutions fortes et élargies qu'au lieu d'avoir des institutions comme l'Assemblée qui est trop Talon seulement.
Vous dites, alors Abdourahmane, je ne vais pas vous garder longtemps parce que malheureusement la ligne grésille, on ne vous entend pas très bien, mais on a bien entendu que vous disiez finalement il faudrait réorganiser des élections législatives. C'est un peu le préalable hein, qu'avaient posé les FCBE, les forces pour le changement. Les forces du changement pour un Bénin émergent, pardon, les FCBE de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Alors finalement, il semblerait que les FCBE participeront à ce dialogue 33 1 55 07 58 00. Faut-il réorganiser dès les élections législatives au Bénin? On va demander dans quelques instants à Monsieur Diomo de Beng. Avant cela, je me tourne vers vos messages hein, laissés sur Facebook. Il y a Tierno qui nous dit ça rappelle. Attendez. Ça s'appelle ça, médecin après la mort. Pourquoi les chefs aiment trop jouer avec les mots dialogue, concertation, consultation, pendant qu'ils ne sont pas du tout sincères? Et puis Archéduc, hein, qui nous dit un dialogue national organisé par Talon, c'est un véritable geste de partage, mais celui-ci doit s'approcher de l'opposition qui est écœurée par ses actions gauches. oubliant que démocratie, c'est aussi l'acceptation de la contradiction et que des actions de répression ne sont que des initiatives obsolètes pour se faire craindre. Voilà vos messages sur Facebook. Diomo, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour aux auditeurs d'Africa numéro 1.
Bonjour.
D'Africa Radio.
Attendez, Diomo de Beng, j'envoie, on avait un auditeur, Paul, qui a raccroché, qui n'hésite pas à rappeler pour qu'on puisse le prendre après vous. On vous écoute.
Ben moi, je dirais que, vous savez, j'appelle vivement le peuple béninois à accepter ce dialogue. Parce que vous savez qu'après le président Boni Yayi,
le peuple n'est pas convié, hein. C'était une question de partis politiques, je crois.
Je vous comprends, les partis politiques ont pour socle le peuple. Donc si les partis politiques ont accepté, j'espère qu'ils iront rendre compte à leur peuple après, aux militants qui les supportent, j'imagine. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'appelle le parti du président Boni Yayi à vivement...
D'ailleurs, vous me permettez de corriger mon erreur, mon cher Diomo, les FCBE, hein, c'est bien sûr les forces Kori pour un Bénin émergent, voilà.
Voilà. Et donc j'appelle le parti du président Boni Yayi, un président que moi j'ai admiré d'ailleurs personnellement, à participer à ce dialogue-là. Parce que souvenez-vous que dans le temps, le président Boni Yayi a gouverné au Bénin, mais en son temps aussi, il était bien opprimé, le président actuel. Alors, je n'ai pas dit que c'est...
D'ailleurs, certains journaux béninois rappellent que cela, ça fait 4 ans que Patrice Talon est rentré d'exil, hein, après avoir été accusé d'avoir voulu empoisonner l'ancien président Boni Yayi.
Voilà, donc vous voyez que Diomo de Beng a aussi beaucoup renseigné, au même titre que les Béninois eux-mêmes d'ailleurs. Et donc je dirais que ce n'est pas le revers de la main, non, pas du tout. Je dirais que le président actuel, Patrice Talon, a éliminé les partis politiques parce que moi j'ai cru entendre qu'il n'y avait pas une bonne structuration au niveau des partis. Eh bien, écoutez, maintenant que le président Boni Yayi et son parti auront le temps de dire bien des choses au président, c'est le moment ou jamais de pouvoir profiter.
Vous savez, dites, il faut saisir la main tendue, hein, vous dites, hein, Diomo, on a bien compris. Alors, on va terminer, parce qu'il reste une minute, avec Paul. Paul, bonjour.
Allô, bonjour.
Bonjour, Paul, bienvenue dans le journal des auditeurs.
Merci. Oui, c'est mon avis, hein, je trouve que ce dialogue est inutile et il sera infructueux. Parce qu'il y en a eu à plusieurs reprises des tentatives de dialogue, on a vu le résultat. Hein. Ce n'est pas la chose la plus importante actuellement. À l'heure où le terrorisme est ambiant et à nos portes, où le Nigeria nous marche dessus, où nous nous apprêtons à entrer dans une nouvelle monnaie dont nous ne connaissons ni les contours, ni les contrats cachés, franchement... Les dialogues politiques, c'est pas le moment. Hein. Ce sont
vous dites qu'il y a des urgences. Hein. Il y a d'autres urgences au Bénin, c'est ce que
oui,
vous dites. Hein.
Oui, oui. Ce sont des conneries que nos aînés ont déjà résolues depuis 1989. Donc, c'est pas vraiment le moment pour nous de revenir 30 ans en arrière sur ces problèmes inutiles. Hein. On devrait plutôt se concentrer sur les dialogues, le dialogue interreligieux, pour que les religieux, justement, enseignent aux fidèles que nous étions déjà ensemble. Avant que les religions étrangères nous viennent.
C'est ce que disait notre invité, hein, mon cher Paul, tout à l'heure, en disant qu'il y a beaucoup de soucis. On arrive à la fin de l'émission, Paul. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Paul, on aura peut-être l'occasion de revenir effectivement sur l'actualité du Bénin dans les prochains jours. D'ailleurs, le dialogue s'ouvre demain, jeudi. On se retrouve demain, jeudi, pour une nouvelle édition du JDA. Je vous propose demain de parler de la Mauritanie. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. À demain.